بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chafar en islam, nous essayons inshallah d'avancer ce soir dans cette catégorie, ce groupe de personnes qui sera sous l'ombre du trône d'Allah Rabbul Izza le jour de Qiyamah, la personne qui reçoit les avances d'une femme de grande beauté, une femme de haute lignée, et que la personne a la possibilité d'accepter cette proposition et d'accomplir l'adultère. Et que la seule chose qui freine ce monsieur ou cette dame, ça peut être dans les deux sens, la seule chose qui freine cette personne, c'est l'amour et la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est cette conviction qu'Allah Rabbul Izza muttali'un alayh, et au-dessus de lui, qu'Allah le voit, qu'Allah l'entend, qu'Allah Azza wa Jal sait exactement ce qu'il y a dans son cœur. Et ce qu'on avait essayé de mettre en avant la dernière fois, il y a deux semaines, c'est l'importance de contrôler son nafs, l'importance de rester ferme dans la foi. Ça, c'est quelque chose d'acquis, plus ou moins. Il y a beaucoup de personnes qui conçoivent totalement, de façon tout à fait légitime, qu'il est important de rester ferme dans le droit chemin, d'accomplir de bonnes actions, la prière, de lire le Coran, le dhikrullah. Donc là-dessus, alhamdoulilah, et nous voyons, le mois de Ramadan, les mosquées sont pleines. Quand on parle d'accomplissement de bonnes actions, très souvent les gens répondent présent. Mais lorsqu'il s'agit de rester éloigné du haram, lorsqu'il s'agit d'aller à l'encontre de ce qu'on appelle le nafs, ce que les pulsions qui sont instinctives, on parle de pulsions là, des pulsions charnelles, ce sont les pulsions les plus fortes, ce sont les épreuves les plus difficiles qui surgissent de l'intérieur du corps de l'homme. Donc cette personne qui est capable de contrôler ses pulsions et de faire passer l'ordre d'Allah Azza wa Jal avant le péché qui est le plus attrayant pour l'homme, l'adultère, sans le moindre doute, c'est le péché qui fait chuter le plus de personnes. Et parfois même des gens que vous ne soupçonnez pas. On peut penser qu'une personne a telle qualité, mais il y avait l'opinion, enfin la citation d'un pieux prédécesseur, qui expliquait un petit peu son état d'âme spirituel. Il dit que si vous me proposez de l'argent, jamais je ne vais céder au haram concernant l'argent, ni concernant la nourriture, ni concernant telle chose. Il dit, mais si vous me mettez avec une jeune femme d'une grande beauté, je ne vous garantis rien. C'était pour illustrer, pour faire comprendre que la faiblesse de l'homme très souvent, se trouve dans les relations intimes, tout ce qui est en rapport avec, en arabe on appelle ça al-jins, tout ce qui rapporte au rapport donc charnel. C'est ce qui est le plus difficile. Et ce n'est pas pour rien si la personne qui s'éloigne de ce haram, il se retrouvera, inshallah, sous l'ombre du trône d'Allah Rabbul Izza, le jour de Qiyam. Le hadith n'est pas cité en exemple, celui qui s'éloigne, celui qui a la possibilité de contracter un prêt avec riba, l'intérêt, et qui s'en éloigne, non. Ou quelqu'un qui a la possibilité de manger quelque chose de haram et qui s'en éloigne, non. Dans ce hadith, il est spécifié celui qui s'éloigne de l'adultère et non pas d'autres péchés. Il peut y avoir des péchés plus lourds en conséquence. On connaît que l'intérêt, selon beaucoup de savants, le riba, l'intérêt parfois est considéré comme un péché plus lourd en conséquence que le zina, que l'adultère. Mais le hadith fait tarsis, spécifie celui qui s'éloigne du zina ou de la fornication, de l'adultère, de la fornication, de ce haram, parce que s'éloigner de ce péché avec, et ça rejoint ce qu'on avait dit la dernière fois, on avait expliqué les circonstances quand la personne reçoit cette proposition, c'est que, un, physiquement la personne est attrayante, c'est quelqu'un qui est beau puisqu'il reçoit une proposition. Deuxièmement, les conditions de l'adultère sont réunies. Les conditions, qu'est-ce qu'on appelle, enfin entre guillemets, les conditions de l'adultère, c'est que la personne a la possibilité de faire ce haram sans qu'il n'y ait de contrainte, sans qu'il n'y ait de pression de la société. Il n'y a pas le regard d'une personne, il n'y a pas madame, mon épouse par exemple, qui peut voir, il n'y a pas des gens de mon entourage, il n'y a pas de moulissab, de fundi, de aprawala et tout, qui vont faire un rapport sur vous. Non, c'est-à-dire qu'on avait expliqué la dernière fois, on avait donné un exemple, mais ça reste un exemple, quelqu'un qui est en voyage, d'accord, qui va dans un endroit, un pays à l'étranger, et que là, on va dire vraiment, il est dans l'hôtel, il rencontre une belle femme qui est, je ne fais allusion à personne, j'ai des amis qui reviennent de voyage, vous êtes dans un hôtel, dans un couloir avec deux chambres juxtaposées avec une belle créature qui est dans la chambre 515 et vous êtes en 514 et vous croisez dans l'ascenseur tous les matins et ainsi de suite. Quel que soit, votre niveau de entre guillemets piété, parce qu'on doit mettre des guillemets, Allah seul sait qui est pieux de nos jours. Allah seul sait qui est pieux. C'est pas celui qui a une grande barbe qui est pieux, c'est pas celui qui a des diplômes de sciences religieuses qui est pieux. Allah seul le sait. Et personne ne peut juger son prochain. Le plus grand imbécile, excusez-moi, hein, mais les termes sont appropriés, c'est celui qui va voir que, ah, Bougaguet, son kafni, bonnet, son turban et tout, Muttaqi, Buzurganidin et tout, ça c'est descendant de Sahaba. Faut arrêter. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on déconsidère la personne, mais à un moment donné, il faut garder le jugement pour Allah. C'est Allah qui juge. Et moi, ce qui m'embête, c'est quand le jugement se focalise sur l'apparence extérieure. Ce qui veut dire, par ce qu'on appelle le ramafoum ou khalafa, par compréhension inverse, quand je vois quelqu'un qui n'a pas le kafni, le bonnet, et ainsi de suite, on va dire que oui, ben lui c'est un modèle, lui c'est quelqu'un de bon, ben, normal, d'accord. Ce jugement-là, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire. Wallahi l'azim. Donc, je disais que dans des circonstances, comme on a cité, ou en vacances, ou à l'étranger, et qu'on rencontre une femme qui nous plaît, et qu'on a compris que le courant passe, et quel que soit notre degré de piété, je vous assure que c'est là une des plus grandes épreuves qui peut toucher notre iman, et nous devons demander à Allah Azza wa Jal protection contre ce genre de situation. Que jamais nous ne soyons exposé à une telle situation où on a l'adultère, le zina à portée de main. Parce que cette épreuve-là, elle est à double tranchant. Soit vous la ratez, dans 95% des cas, les gens le ratent. Parce que le cœur, surtout à notre époque, notre iman est tellement faible, nos a'mal sont tellement vides, il n'y a pas de fond spirituel. On l'a expliqué hier, on ne fait pas de hors-sujet, M. Patel nous regarde les gros yeux, sort tampon, il vient ici, mashallah. Hier, on expliquait le tarbiya islamiya, l'éducation spirituelle de l'enfant, dans Riyad al-Salihin, Hadith ibn Abbas, on disait que quand on a su mettre de le cœur de l'enfant les bases de l'éducation spirituelle islamique, la connaissance d'Allah Azza wa Jal, l'amour pour Allah, la crainte d'Allah Azza wa Jal, la conviction qu'Allah est au-dessus de toi, la conviction qu'Allah te voit, qu'Allah t'entend, qu'Allah sait ce qu'il y a de ton cœur. Donc, فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Tu es en danger, tu as un problème, demande à Allah. Tu as besoin d'un doigt, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Tu as besoin de quelque chose, demande à Allah. Sache que si tout le monde veut te faire du tort, personne ne te fera du tort si Allah ne le donne pas l'autorisation. Sache que si tout le monde veut te faire des bonnes, il veut t'aider, ne compte pas sur les gens. Ne pense pas que lui il est riche, lui il est célèbre, lui il travaille tel endroit, ils vont m'aider dans la ville. Ah wallah, que ta confiance soit entièrement Allah Azza wa Jal. Ce discours, le Prophète ne l'adresse pas au pèlerinage d'adieu, ne l'adresse pas aux grands sahaba qu'il va envoyer au Yémen ou à Oman ou dans différents endroits pour prêcher. Là, wallah, le Prophète fait ce discours à un enfant, parce que le prophète sait qu'à cet âge, l'enfant a besoin de ses bases, ce socle spirituel. Si l'enfant grandit avec ce socle spirituel, assurément, l'accomplissement de la salat à l'âge de 7 ans, ce sera une formalité. De nos jours, c'est dur de faire venir les enfants à la masjid, sauf certaines salats où c'est dans un roulement après l'école, madrasa, on vient et puis on part. Mais tirer un enfant devant sa télé ou tirer un enfant du lit pour venir, c'est pas évident. Qu'est-ce qui fait que l'enfant, on va dire que mais il n'est pas balir, d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que l'enfant des fois trouve un peu de mal à s'accrocher aux bonnes œuvres? C'est qu'il ne sait pas pourquoi il le fait et il ne sait pas pour qui il le fait. Aham Shay. Il ne sait pas pour qui il se prosterne, pour qui il fait la génuflexion, il ne sait pas pour qui il se lève à 5h30 du matin pour venir à la mosquée, il ne sait pas. Donc, il va faire plaisir à papa, il va faire ce que tout le monde fait, il va faire comme les copains, ou alors il vient parce qu'il y a madrasa après à 6h du matin, donc il vient à masjid et puis il va. Mais intérieurement, là, il ne comprend pas lui, c'est quoi l'important de la salah. Ce socle spirituel dont le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré qu'il est essentiel de l'inculquer à l'enfant quand il est encore petit. N'attendez pas qu'il soit baligh. N'attendez pas qu'il ait 14, 15, 16 ans, qu'il soit préadolescent, de le jouer à l'adolescence, il commence à 9 ans, 10 ans, je vous assure, hein, c'est terrible. N'attendez pas qu'il soit grand, entre guillemets, pour lui faire comprendre qui es-tu, que tu es mustaslim lillah, tu te soumets à Allah. Ça, c'est un discours qu'on doit inculquer à l'enfant depuis qu'il est petit. Et quand l'enfant grandit avec ses bases, si moi en tant que papa, si la maman a donné cette base spirituel à l'enfant, on lui donne toutes ses chances d'avancer dans le droit chemin et toutes ses chances de rester protégé contre les makr, contre les cailles de Iblis, contre les pièges de Shaytan alayhi la'natullah. Le gros problème de gens, je dis que oui, les enfants quand ils vont au collège, au lycée, ils se perdent, hein, ils tombent dans la cigarette, après c'est la drogue, après ils sortent avec les filles, après quand il a 18 ans, il commence à dire il va en boîte de nuit, après ainsi de suite. Wallah musta'an, c'est le cercle vicieux. Mais qui est-ce qui a créé ce cercle vicieux? Tout le monde dit c'est la société. Pas faux. La société fonctionne et va de ce sens. C'est une société qui est bercée par les fitnas, de toute façon, le prophète l'avait annoncé. Mais qu'est-ce qui permet à cet enfant de rentrer dans le cercle vicieux? Et qu'est-ce qui aurait pu l'en empêcher, mais en étant convaincu intérieurement, pas avec des claques, pas en l'interdisant, pas par une pression morale ou physique ou autre chose. Pas le papa qui contrôle la maison à la baguette. Ça, c'est fini, cette époque. Ça, c'était l'époque de nos... Même pas nos parents. L'époque, on n'a pas vu ça. C'est nos parents qui expliquent comment leurs parents étaient. C'est l'époque de nos grands-parents. Quand le dada, le nana, ils rentrent et tout le monde reste silencieux et personne ne pense à faire des bêtises. C'est fini, cette époque. Avec les droits, les libertés, l'émancipation, et ainsi de suite, le choix de la sexualité. Vous savez, ils inventent plein de choses. L'émancipation sexuelle. Avant, quand on était au collège, lycée, on parlait d'émancipation sexuelle, de découverte de la sexualité. Et c'est à notre époque qu'on avait introduit éducation sexuelle en quatrième. Et à notre époque, on a commencé à distribuer, ils ont commencé à distribuer des préservatifs, des cantines. Ça n'existait pas avant. C'est de notre génération qu'on a passé le brevet après peu près 96 et qu'on a passé le bac en 97. C'était à cette époque que ces choses-là ont commencé et tout le monde était choqué. De nos jours, c'est différent. C'est pire. Enfin, c'est pareil. Ce qu'ils ont rajouté, c'est que depuis la maternelle, moyenne section, moyenne section, grande section, CP, l'enfant, on va le faire intégrer qu'il n'est pas forcément un garçon. Quand il regarde, là, dans le moment constitué, il voit tout ce qui ressemble les organes d'un garçon, d'un mâle. Quand il voit un bœuf, il connaît ce qu'est un bœuf, il connaît ce qu'est une vache. Mais quand il regarde, il sait qu'il est un garçon. Mais on va lui dire que tu es constitué comme un enfant de sexe masculin, mais tu n'es pas forcément un garçon. C'est toi qui donneras l'orientation à ta sexualité. C'est des choses que je pense qu'on a un peu dépassé le règne animal, là, d'accord. Même les animaux, ils n'ont pas atteint ce trouble. Hein, c'est un trouble de l'identité, c'est un trouble même de l'inéité, de la fitra, comme Allah nous a créé. Et ça, on avait expliqué dans An-Nazi'at. Waja'alakum, comment? Azwaja. Waja'alakum azwaja. On a expliqué que pour que la vie continue, il faut un homme et une femme, comme le verset le prouve. Bref, donc, on va dire qu'il y a un contexte compliqué. Effectivement, le contexte est extrêmement difficile. Et on se plaint que les enfants se perdent. Les enfants, même si on donne la bonne éducation, à un moment donné, ils s'en vont. Ils vont sombrer dans tous les péchés qu'on a cités, qu'on a listés tout à l'heure. C'est là une réalité. Parfois, on voit des personnes, des jeunes de bonne famille. On regarde à sa famille, il y a des alims, il y a des hafiz al-Qur'an. Il est responsable de la masjid. Ses parents, ses grands-parents, ils étaient parmi les fondateurs, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on le voit à la villa le samedi soir? Comment est-ce possible que sur Facebook, on voit ses photos avec 3 filles, 4 filles et avec bouteille de champagne? Comment est-ce possible? Haqiqa, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qui fait que il y a des jeunes qui vont rentrer dans ce cercle vicieux? C'est que moi, en tant que parent, je ne lui ai pas donné le socle spirituel pour qu'il comprenne la frontière, la limite, ce qu'Allah attend de moi et ce qu'Allah a rendu haram. Et ça, on le retrouve dans cet enseignement prophétique au Prophète Mahfi ibn Abbas, radhiyallahu anhu, ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah, c'est protège le din d'Allah. De quelle façon? Ihfaz hudud d'Allah. Respecte les règles, les limites. Ce qu'Allah t'a demandé de faire, tu le fais, ô mon enfant. Je rappelle, c'est un enfant. Ce qu'Allah t'a interdit de faire, tu ne le fais pas, ô mon enfant. Protège ta religion. Et dans Ihfadillah, il expliquait également que c'est apprends le dîn pour mieux le pratiquer. Et ensuite, un jour, tu l'expliqueras aux gens. Il y a tous ces marahil, toutes ces étapes. C'est-à-dire respect de la religion, l'apprentissage religieux pour mieux pratiquer et la propagation. Ça, c'est quelqu'un qui protège la religion. Quelqu'un qui le fait, Yahfavuk, Allah te protège. C'est-à-dire Allah guide tes pas. Allah te protège contre les fitna. Allah te protège contre tout ce qui est haram. Et quand Allah décide de protéger quelqu'un, ben on a Yusuf alayhi salam. Qui, l'homme le plus beau de l'histoire de la création, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas apparente. Si la beauté du prophète était apparente, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. La beauté de Yusuf alayhi salam, ce qu'Allah lui a accordé comme beauté, c'était une beauté apparente. Vous connaissez l'histoire. Le but, c'est pas l'histoire de Yusuf alayhi salam, c'est juste une portion de l'histoire. Quand les femmes se coupaient les doigts en voyant cette personne, tellement il était beau qu'elles oubliaient qu'ils avaient un couteau dans la main et se coupaient le doigt. Ajib, ça prouve quelle était la beauté de cet homme. Ben lui, il a été protégé par Allah. Il a été guidé, ses pas ont été guidés, ce qui fait que malgré cette beauté, malgré les circonstances où il était seul avec cette, on pourrait appeler ça la femme du gouverneur ou une princesse parce qu'elle était jeune, malgré ces circonstances où toutes les conditions étaient réunies pour qu'il accomplisse l'adultère, un homme normalement constitué l'aurait fait, Youssouf alayhi salam, parce qu'en plus il y avait la menace. S'il ne le fait pas, on va te calomnier. On va dire aux gens que c'est toi qui as essayé d'approcher la princesse et ainsi de suite. Malgré les circonstances, il a été guidé, ses pas ont été guidés par Allah. Ça veut dire, on va dire que mais on n'est pas tous prophètes, oui. Mais voyez, essayez de décortiquer la situation. On a un homme d'une grande beauté avec toutes les qualités, ok. On a des circonstances d'adultère tout autour, qui sont réunies. Mais qu'est-ce qui fait qu'il arrive à s'extraire de cette situation? C'est qu'au-dessus de lui, il y a Allah Rabbul Izzah qui protège la personne. Yahfadouk, Yahfadillah, Yahfadouk. Allah le protège, guide ses pas, lui protège des fitnas. Allah l'empêche de tomber, de sombrer, d'aller pécher, d'aller dans l'insufflation du diable de Shaitan. Certes, on n'est pas prophète, mais si on a la protection d'Allah, ce sera comme Youssouf alayhi salam, ou comme les sahaba, les tabi'in, les gens pieux qui fassent au haram, d'un coup de d'un revers de la main, il savait éloigner les pieds de Shaitan. Et vous savez, plus, on va voir ça, on mélange un peu tout, mais plus on décortique, plus on rejette les pieds de Shaitan, plus on s'éloigne du nafs, on désobéit, on écarte les pulsions charnelles et d'une manière générale les envies du nafs, ben on affaiblit le nafs. Et on affaiblit le pouvoir de Shaitan sur nous. Ce qui fait que au fur et à mesure où on arrive, on gagne du terrain, on lutte contre Shaitan et contre notre nafs, à un moment donné, Shaitan n'aura plus d'emprise sur nous. Les seules façons qu'il pourrait essayer de nous avoir, c'est par des ruses, par des situations vraiment exceptionnelles. Ou alors, en vous détournant dans les bonnes actions, en vous faisant dériver du droit chemin, en vous amenant vers les bid'a ou autre chose. Mais Shaitan, il sait pertinemment que c'est quelqu'un avec qui l'intérêt, ça marche pas, l'adultère, ça marche pas, désobéissance envers les parents, ça marche pas, la musique, le regard, et ainsi de suite, tout ça, ça marche pas, le mauvais comportement, ça marche pas. Donc Shaitan, il sait que tu es presque immunisé contre lui. Donc c'est quelqu'un qui, mashallah, restera sur le droit chemin. Mais tout va démarrer, pour revenir à l'exemple qu'on a donné de nos enfants, tout va démarrer à la base spirituelle qu'on va inculquer à l'enfant. Et encore une fois, je parle de base, de socle spirituel. Je ne parle pas d'enseignement d'action. Parce que pour enseigner les actions, on le fait. Regardez, mashallah, dans toutes les médias, ça sont pleines. Saint-Denis, ils ont près de 800. Au Latanier, mashallah, près de 400. Chez nous, à Sainte-Clotilde, on a 230. Au Moufia, ils ont 90. Les madaris sont pleins, tellement pleins, il n'y a plus de place. On refuse les inscriptions. Les professeurs, mashallah, il y en a partout. Les gens qui ont la possibilité d'expliquer la religion, il y en a en quantité. Ce qui veut dire que la pratique est liée. Mais ce qui nous manque réellement, c'est l'intérieur. Tout ce qui permet à l'enfant de connaître Allah Azza wa Jal. Donc, ça, on va dire, c'est un autre sujet. Mais gardez à l'esprit que ça, c'est une priorité. Et si on veut qu'un jour, notre jeune garçon, quand il aura 18, 19 ans, ou notre jeune fille, Inch'Allah, il saura s'éloigner du haram qui est accessible par amour et par crainte d'Allah, il faut qu'on lui donne les chances. Il faut qu'on lui ait donné cette formation spirituelle pour, et le tout, Allah, c'est un constat alarmant. Très souvent, en tant que parent, on va s'autosuffire du fait que mon fils est devenu hafidhul Qur'an. Il connaît le Qur'an par cœur. C'est comme si que c'est bon, c'est fini. Il est protégé, il ne fera jamais de péché, il ira dans le Jannah, sans rendre compte, et il amènera 40 personnes avec lui. Donc, ma fille me fait le nom, nana moins, na papa, na tati, na tata, na un tel. Je connais des gens qui disent que bon, parce que certains disent c'est 40, certains qui disent c'est 10, disent écoute, parmi les 10, il faut qu'on mette mon nom. C'est comme si que, c'est une liste que vous allez à Korah, ben, on prend un peu ça, on prend un peu ça, donc mettre le jour Qiyamah, donc on prend un tel. On pense, comment on a compris la religion donc? Et intérieurement, on pense que l'enfant, il est hafid le Coran, il est protégé. Moi, je vous dis qu'au contraire, ce Coran-là pourra le détruire. Al Coran, hujjatun laka ou alayk, ou comme a dit Al Sallat au Sallam, qu'Allah nous protège. Quand quelqu'un a de son sadr la parole d'Allah Azza wa Jal en intégralité, et qu'il y a écrit qu'Allah nous protège, qu'Allah nous pardonne, personne n'est parfait. Tout le monde fait des pécheurs. Tout le monde fait des péchés. Et comme je dis, celui qui prêche parfois, il est plus pécheur que les autres. Donc, qu'Allah nous pardonne. Il est écrit le Coran, wala taqarrub az-zina. Je le mémorise, mais si je l'accomplis, est-ce que c'est pas plus grave que celui qui ne connaît rien du Coran? Le Coran, c'est écrit wala taqul lahuma ouf. Ne dites même pas ouf aux parents, c'est-à-dire ne montrez pas le moindre signe de mécontentement, même qu'il n'est pas verbalisé. On parle même pas de sujet verbe complément là. On parle, comment on appelle ouf? Ça s'appelle comment en français? Non, non. Grammaticalement, ça s'appelle comment? Barakallah fikoum, mashallah. Il y a des jeunes qui ont une formation onomatopée. C'est un bruit qui ne s'articule pas, ce n'est pas un mot. Et si le Coran a choisi le terme ouf, il faut qu'on réalise bien qu'il ne s'agit pas d'argumentation avec les parents ou d'échange ou alors de manque de respect par rapport aux paroles échangées. On ne parle même pas d'échange, on parle la première expression de mécontentement. Donc, si je mémorise « Wala taqullahuma ouf » et que je suis peut-être même capable de le lire en plusieurs façons, voilà, taqullahuma ouf, je dis d'une seule façon, je ne sais pas, les autres qirat, et que je peux le lire dans la salat al-tarawih d'une voix mélodieuse, et que les gens, ils sont fiers que, mashallah, ça c'est un hafez, ça c'est un imam tarawih, et ainsi de suite, et que dans ma vie, je considère mes parents comme les pires de mes amis, je respecte plus mes amis, je suis plus loyal envers mes amis, je donne plus de droits, Allah me pardonne, je donne plus de temps à mes amis qu'à mes parents, assurément ce verset-là se retournera contre moi. Ça me dit, le Coran, hujjatun laka, ce sera une aide pour toi, un argument pour toi, ou alayka, ou contre toi, jour de qiyam. On ne met pas en pratique, voilà ce qui arrive, nasr al-afir. Donc il ne faut pas penser que l'objectif c'est que mon enfant devienne hafid al-Quran. Ça c'est le summum, c'est le top. Mais avant, cet enseignement islamique, cette éducation islamique commence vraiment à l'âge de 5 ans, 6 ans. C'est à ce moment-là qu'on doit parler à nos enfants d'Allah Azza wa Jal. Là on leur donne les chances qu'il faut pour qu'ils connaissent le Seigneur et qu'ils s'éloignent des interdits afin que lorsqu'il aura 16 ans, 17 ans, 18 ans, et qu'il va recevoir ce genre de proposition. Parce qu'il faut savoir qu'à notre époque, ce cas de figure se produit beaucoup plus fréquemment qu'à l'époque où le hadith a été prononcé. Vous comprenez? Quand le prophète alayhi salatu wa salam explique « Rajulun da'athum ra'atun zata mansibin wa jamal faqal inni akhafullah » Ce genre de situation se produisait très rarement. En tout cas, à Al-Madina, ça ne se produisait pas. Les personnes qui habitaient autour, dans l'entourage du Prophète sallam, ben ce genre de péché n'était quasiment pas présent. Quand il y avait un péché de ce genre, ça se savait. À un tel point que c'est écrit dans les hadiths où le Prophète a eu affaire à Al-Mar'a, je ne sais pas comment ça s'appelle, Al-Marzoumiya, si je ne me trompe pas, de cette tribu. Donc les hadiths le stipulent qu'une femme avait accompli l'adultère à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle avait avoué et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'était des cas très rares. D'accord? Mais plus on s'éloigne de l'époque prophétique, des sahaba, des tabi'in, ce péché se généralise et le prophète m'a dit qu'à la fin des temps, l'adultère sera muntashir, l'adultère sera répandu, ça deviendra là une banalité et ça deviendra la norme. Qui est-ce qui parle encore de mariage de nos jours? On parle de concubinage, on parle de copain, c'est mon copain, ainsi de suite, l'amstan. Donc c'est quelque chose qui se produit de plus en plus et ça devient général. Donc si on veut que notre enfant un jour arrive à cet âge, il s'est refusé, comme Youssouf alayhi salam avait refusé le haram, il faut que dès plus jeune âge, j'ai connecté mon enfant avec notre Rabb, avec notre Seigneur, Azza wa Jalla, qu'Allah me donne la possibilité, Inch'Allah, de le faire et qu'Allah remplisse nos cœurs de ce sentiment de responsabilité par rapport à nos enfants. Donc, avant de voir un petit peu l'histoire de Youssouf alayhi salam, il y a ce qu'on n'avait pas pu compléter la dernière fois, et selon moi c'est important, c'est la citation de quelques pieux prédécesseurs, hein, entre autres Malik bin Dinar, c'est des gens connus, Malik ibn Dinar, Yahya ibn Mu'adh, Abu Muhammad al, lui je ne le connais pas, Al-Jurayri ou Al-Jariri, certains ce sont des mutabi'in, c'est des paroles remplies de sagesse et qui illustrent vraiment l'importance du fait de s'éloigner du haram, de contrôler son nafs par rapport à ce péché. Comme on a dit, c'est le péché le plus difficile, c'est le péché le plus compliqué à gérer. Malik ibn Dinar, rahimahullah, dit « Man ghalaba shahawat ad-dunya », celui, on va dire en français pour aller un peu plus vite, celui qui, ce croyant, qui arrive à surmonter les pulsions et les passions, فَذَلِكَ الَّذِي, c'est ce genre de personne, c'est lui, hein, c'est pour ce genre de personne que Shaitan, c'est auprès de ce genre de personne que Shaitan s'éloigne. Alors on trouve une meilleure formulation, Shaitan min dhilli, c'est-à-dire que quand quelqu'un arrive à contrôler ses pulsions complètement, Shaitan fuit même de son nom. On a pu intégrer Minvoli. Shaitan fuit cette personne et fuit même l'ombre de cette personne. Ça rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure. Au fur et à mesure que vous donnez, en guillemets, des coups de pied à Shaitan, vous refusez ses avances, vous ne cédez pas à ses waswasa, ses insufflations, au fur et à mesure, Shaitan comprend qu'il n'a pas Sultan Alek, qui ne peut pas te contrôler et donc il va s'éloigner et donc alhamdulillah on sera d'une certaine façon protégé du haram. Mais il y a les premières occasions, les premiers pas à faire, les premières résistances face au péché. Donc par rapport à la citation de Malik ibn Dinar, on peut déduire également qu'à chaque fois qu'on s'éloigne du haram, à chaque fois qu'on contrôle notre nafs qui penche vers le péché, on renforce notre iman. Parce que le prophète m'a dit que hadith que man taraka shay'an lillahi 'awwadahu Allahu khayran minhu, hadith qu'on cite une fois par mois au moins, celui qui délaisse quelque chose d'interdit pour Allah et uniquement pour Allah, Allah Azza wa Jalla lui accorde quelque chose de meilleur. Et c'est quoi ce quelque chose de meilleur? En commentaire, les savants, ils ont expliqué, et ça rejoint d'autres hadiths, dans lequel le prophète dit que Allah lui accorde halawatul iman, la douceur de la foi. C'est-à-dire que cet homme va trouver le plaisir, l'émancipation vraiment dans les bonnes œuvres. Et son cœur va être attaché au dhikrullah, à la lecture du Coran, au salat, ce qui fait qu'il deviendra un fervent adorateur d'Allah. C'était une qualité qui était propre à chaque sahaba. Imaginez que vraiment, je trouve le bonheur dans la salat al-fajr. C'est magnifique ça. Que je trouve mon bonheur total dans le qiyam al-layl, de le tahajjud. Il y a des gens qui, pour avoir le bonheur total, disent qu'il faut que je vais en vacances, je vais dans tel hôtel 5 étoiles, ou je vais manger tel endroit, j'ai besoin de dunya, j'ai besoin de plaisir mondain pour trouver la tranquillité, la paix, le bonheur, une certaine jouissance. Mais imaginez que nous, on arrive à le trouver dans la connexion avec Allah. Imaginez quel est l'état d'esprit dans quel bonheur on vit. Ça, c'est quand une personne apprend à délaisser ce qui est interdit uniquement par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jalla. Donc, à chaque fois, et là, on ne parle pas forcément de celui qui s'éloigne de l'adultère, là, ça commence par des petites tentations de shaitan. Ça peut être le regard. Un regard qu'on aurait aimé regarder une personne, d'accord? On ne le fait pas pour Allah. Vous n'êtes pas conscient, mais en vous contrôlant par rapport à un regard ou par rapport à une parole, dans une assemblée, vous avez envie de dire une parole qui va vexer quelqu'un. Vous voulez dire une parole de ribat, c'est une médisance ou une calomnie, mais qui fera de vous sadrul majalis, qui fera de vous le centre d'intérêt. Tout le monde va rire, il va vous féliciter pour cette vanne, d'accord? Mais vous savez que c'est un ribat. Quel que soit le péché, les péchés, on va dire les péchés moins lourds en conséquence, chaque fois qu'on s'en éloigne pour Allah Azza wa Jal, Allah nous accorde une lumière de le cœur. Une possibilité de se connecter avec plus de qualité, avec eux, notre Seigneur. Donc, quand on s'éloigne, quand on contrôle notre nafs, notre iman se renforce. Également, on se renforce psychologiquement. Ça veut dire quoi se renforcer psychologiquement? C'est-à-dire que le corps et l'esprit, mashallah, ils ne font plus qu'un. Intérieurement, on devient quelqu'un de fort. Parce qu'on sait exactement où on va. On ne se laisse pas baisser par les envies soudaines et subites. Quelqu'un qui, quand il veut faire quelque chose, il va faire, quand il ne veut pas, il ne fait pas. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas de stabilité. Alors que quand on est maître de soi, on se contrôle entièrement. Même sur le plan psychologique, on va acquérir une certaine force. C'est là que nous voyons des gens qui ont une force de persuasion, des gens qui, mashallah, quand ils parlent, les gens l'écoutent parce qu'il s'est persuadé lui-même qu'il y a une ligne de direction, une ligne à suivre, et non pas différents chemins. On ne se laisse pas bercer par les pulsions, par les envies subites et soudaines. Donc psychologiquement également, on sera renforcé, et le plus important, c'est que Shaitan aura de moins en moins d'emprise sur nous, et le nafs sera affaibli. L'objectif du Ramadan, c'est ça. Le Ramadan approche dans 2 mois, subhanallah. L'objectif, c'est qu'on arrive à contrôler notre nafs entièrement, et en contrôlant notre nafs, mashallah, on arrive à devenir de pieux serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Quand chaque fois que j'ai envie de manger, je ne mange pas, j'ai envie de boire, je ne bois pas. Si je suis marié, je veux m'approcher de mon épouse, je ne le fais pas parce que je suis en état de jeûne. Je ne suis pas conscient, mais toutes ces frustrations, entre guillemets, cela m'apporte de la lumière intérieure. Et si vous le faites pendant 30 jours d'affilée et que le soir vous passez les nuits dans le dans le tarawih, ensuite de le qiyam al-layl, d'un côté, vous vous éloignez du haram complètement, vous vous éloignez de tout ce qui est interdit, et le soir, vous faites de bonnes œuvres, ce qui fera de vous un homme, mashallah, avec une spiritualité renforcée au bout d'un mois de jeûne. C'est l'objectif du somme, la'allakum tattaqoun. C'est ce qu'on appelle tout simplement et merveilleusement la taqwa, la crainte d'Allah. C'est également l'objectif de la salat. L'objectif de la salat, c'est l'éducation du corps, l'éducation des yeux. On apprend à regarder partir. L'éducation des oreilles, on apprend à ne pas écouter. Vous êtes en train de faire salat, quelqu'un est en train de raconter quelque chose, mais vous n'écoutez pas. Vous vous concentrez sur la lecture du imam ou sur ce que vous êtes en train de lire. Vous êtes en train de prier, vous pensez à quelque chose, vous avez envie de bouger, faire des trucs. Non, votre portable sonne, vous ne répondez pas. Et ainsi de suite, parce que vous restez concentré dans votre prière. On contrôle les yeux, on contrôle les oreilles, on contrôle le gestuel, on contrôle également la pensée. Vous commencez à vous éloigner un petit peu, vous pensez à des choses mondaines, vous ressaisissez, vous dites non, je demande Allah, je reste concentré. C'est une éducation complète du corps et de l'esprit. C'est magnifique la salat. Et cette éducation-là, on le fait 5 fois par jour. Et l'objectif, c'est que, en dehors de la salat, je garde ces bases de contrôle sur soi. Et quand j'arrive à développer ce contrôle sur moi-même, ben là, je vois le résultat de la salat qui est, quel est le verset ? Inna salata tanha 'anil fahsha'i ou al munkar, que la prière éloigne du turpitude et du blâmable. Quand quelqu'un prie comme il le faut, ben il s'éloigne totalement de ce qui est interdit. On parle d'éloignement du péché. C'est-à-dire le cœur ne penche même plus vers le péché. Même si le péché arrive, le cœur se retourne, s'en éloigne. Parce qu'on a appris à se contrôler entièrement. Vous voyez la beauté et l'importance de la salat. Également de la zakat, quand je donne la zakat, c'est pour qu'intérieurement, quand il y a le mizan, la balance entre hubdunya, l'attachement pour les biens, et le fait de donner pour Allah, je fais passer l'amour pour Allah au-dessus de l'attachement pour les biens. C'est une éducation, c'est une thèse qu'il y a. C'est une purification de la richesse, mais c'est également une purification intérieure, un travail qu'on fait sur soi, et ainsi de suite. La plupart des actions, des piliers, ont pour objectif, en plus de l'action accomplie, d'éduquer l'âme. Et ce sont là les qualités qu'on a besoin de développer, et c'est ça qui nous permettra de refuser le haram. Quand cette jeune fille nous fera cette proposition, si ma salat elle est bien faite, si ma zakah elle est donnée régulièrement, si mon somme est un somme, un carême de qualité, ben assurément, dire non, ce sera quelque chose de tout à fait normal, tout à fait naturel. Et je vous avais dit en introduction qu'il n'y a rien de plus difficile que quand c'est l'homme qui reçoit les avances d'une femme. Parce que maintenant, que si c'est vous qui devez chercher à aller draguer la personne, des fois vous n'aurez pas confiance en vous, vous dites bon ben je suis pas très beau ou autre chose, et elle n'acceptera pas, donc c'est pas gagné. Mais quand c'est la femme qui vous fait des avances, c'est-à-dire c'est in the pocket là, avant même d'y penser, c'est déjà dans la poche. Donc vous savez que vous dites oui, que vous avez ce que vous voulez. Mais c'est là le moment, à ce moment précis, refuser, on a dit c'est très dur. Maintenant, ces a'mal-là vont nous aider. Et ces a'mal-là, ils vont obtenir leur qualité à partir du moment où il y a la connaissance d'Allah, ce socle spirituel. Et à partir du moment où, quand on enseigne ça à l'enfant, chaque fois qu'il y a un péché, il s'est dit non. Ben là, le nour, la lumière s'installe dans le cœur et ça nous pousse vers les bonnes œuvres. Vous avez compris le mécanisme ? Socle spirituel. L'enfant s'éloigne des péchés, il prend l'habitude de rester éloigné des péchés. Il devient balir, c'est là que les actions sont comptabilisé. Il devient balir, il affronte ses premières situations de waswasa de shaitan, il dit non, tac, j'ai appris ça depuis que je suis petit, j'ai Allah qui me voit, qui sait ce qu'il y a dans mon cœur, qui m'entend, tac, à chaque fois je refuse, je donne des coups de pied à shaitan. Shaitan, il peut plus avoir un emprise sur moi. Et à chaque fois je ferme des fenêtres et des portes à shaitan, Allah Rabbul Izza est satisfait parce que je le fais pour Allah. La lumière du iman rentre dans mon cœur. La lumière du iman rentre dans mon cœur. Quand je fais mes prières, je trouve une spiritualité explosive. Quand je jeûne, je trouve un plaisir magnifique dans le jeûne. Plus de plaisir que celui qui est en train de manger plein de choses et qui jouit de cette nourriture. Donc, la qualité des actions, elle atteint son summum. Et quand on dit que l'action atteint son summum, c'est synonyme également de stiqama, de fermeté, de constance, ben en résultat, vous avez quelqu'un qui a le cœur qui penche entièrement pour l'adoration d'Allah, qui ne trouve de plaisir que dans l'ibadah, et qui sait s'éloigner, mais aisément, facilement de tout ce qui est haram. Donc maintenant, mettez une situation, comme on a dit, qu'Allah nous protège, mais que l'homme, cette personne, reçoit les avances d'une belle femme, facilement il va refuser, et en refusant, qu'est-ce qu'il obtient ? Une place garantie, promise par Allah, sous l'ombre de son trône. Et cette promesse, c'est pas qu'une personne qui refuse à chaque fois. Le hadith ne stipule pas quelqu'un qui recevait tout le temps durant sa jeunesse, même une fois. Même si c'est une fois, mais on l'a fait très sincèrement, Inch'Allah, on a la garantie d'avoir cette place au nom de son Allah, Azza wa Jalla. Et autre question, permettez-moi de vous demander, est-ce que ce hadith concerne que les jeunes ? Non ? Ça peut être un jeune, on s'est focalisé sur les jeunes parce que c'est à cet âge-là qu'on est en général un peu plus séduisant et c'est à cet âge-là qu'on a plus de pulsions, plus de, comment on appelle ça, de testostérone, hein, d'envie de faire un petit peu n'importe quoi. Mais ça peut être également quelqu'un de moins jeune. Quelqu'un qui est moins jeune, ça peut être un homme marié. Vous savez, il y a des fois où quand on est marié, 20 ans, 30 ans, bon, une certaine routine qui s'installe et on aimerait bien lever un petit peu la tête, voir est-ce que l'herbe n'est pas plus vert chez son voisin. C'est comme ça. Et nous sommes des êtres humains. Il ne faut pas se dire que non, c'est pas vrai. Tout le monde a le vice de la tête. Tout le monde, à un moment, il a des mauvaises pensées. Mais le muttaqi, il est d'un revers de la main, lui, il suffit de dire « A'udhu billahi minash shaitan rajim ». Celui qui est moins pur va dire « Ah, t'es ben, on ne peut pas, hein ?» Mais marié, madame, il va y avoir moins, il vérifie mon GSM le soir, hein, il vérifie mon ben WhatsApp, mon ben connexion, et qui ça la clique j'aime sur mes statuts, tout ça, donc bon, là, il faut faire attention, d'accord? Et puis celui qui, moins on a de taqwa, plus on va pencher, quand il y aura une brèche, on va rentrer dans la brèche, on va voir est-ce que c'est exploitable ou non, et là on se perd. Qu'Allah nous protège. Donc voyez comment tout démarre de cette éducation spirituelle, de l'éloignement du péché, la lumière de la foi qui va s'installer, qualité des actions, et ça nous permet d'arriver à une situation comme ça où on dit non. Et donc, comme on l'a dit, ce n'est pas forcément pour un jeune, ça peut être un homme marié, ça peut être un homme mûr, parce qu'il y a également des femmes... Comment on appelle ça? Ne le dites pas. Si vous dites, c'est que vous savez. D'accord? Il y a une expression un peu moderne pour les femmes qui, même à un certain âge, continuent à draguer, essayer de faire suite. On n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri. D'accord? Donc, ça peut concerner quelqu'un qui même n'est plus jeune, mais qui, à un moment où il pense qu'il va pencher, il s'éloigne. Est-ce que ça concerne un homme qui refuse les avances d'une prostituée? Là, moi, quand je viens à la mosquée de Montreuil, je descends la rue Pasteur, je remonte, je passe par la rue Beyal Trouk, qui n'est pas comment appelle Ben Rue, hein, où ça en a toutes les dames, hein, les dames qui sont très gentilles, là, qui veulent tous vous faire salam. D'accord? Petite ruelle, là, d'accord? Parfois, c'est des dames, parfois, c'est des, moi, j'appelle ça des tontons calas, parce que les deux en même temps. Ok? Bref. Voilà, je suis dans un embouteillage. Nana me dit, ça va, jeune barbu, alors, un petit plaisir? Je dis, non. Est-ce que là, je suis dans cette situation? Non, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas parce que là, il est question, c'est pas que je l'ai plus, c'est une question d'argent, c'est de la prostitution. Là, on parle de qualité innée, qu'une femme a été séduite par notre beauté, par notre comportement, ainsi de suite, et c'est là qu'elle se livre à vous. Vous connaissez un hadith qui illustre bien cette situation, non, qui n'illustre pas exactement, mais ce mécanisme d'éloignement du haram quand il est accessible. L'histoire des jeunes dans la grotte. On parle toujours des jeunes, hein. Des jeunes qui étaient dans la grotte, et une pierre était tombée, d'accord, comme au littoral, avec une éboulie, d'accord. Et la seule façon d'obtenir la nusra, c'était de mettre en avant, appelle tawassul bil a'mal as-salihah, mettre en avant une action magnifique, la plus belle des actions qu'ils ont accomplies de leur jeunesse ou de leur vie. Et un qui a dit que j'étais profondément fou, amoureux de cette femme, de cette jeune fille. À chaque fois, je lui faisais des avances, elle refusait. À un moment donné, elle acceptait. Parce qu'il y a une période de disette, et elle a dit que bon ben, et là je dis bon ben, compte telle somme et tout, elle était d'accord. Dit qu'au moment où, le hadith est très clair, dit au moment où je me suis mis entre les jambes de cette jeune fille, c'était son rêve qui se réalisait. C'était son rêve. Excusez-moi, je rajoute, à ce moment-là, il entend la chanson Ligue des Champions et tout. D'accord? Et pour lui, c'est la consécration, il va le faire. Ok? À ce moment-là, cette femme dit, crains Allah. Et il n'accomplit rien de haram qui va à l'encontre de l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Ce jeune homme dit, à ce moment, j'ai éprouvé la crainte d'Allah et j'ai eu honte de mon Seigneur et je me suis éloigné, je me suis éloigné de ce haram, de ce zina, alors que j'y pensais nuit et jour depuis je ne sais combien de temps. Allah Azza wa Jal est tellement content de cette attitude. C'est pas quelqu'un qui a passé la nuit dans tahajjud, hein. C'est pas quelqu'un qui dit comme tu m'as fait un katam Coran dans une nuit ou autre chose. Non, c'est quelqu'un qui allait faire le zina, l'adultère. Quand tu fais le zina, Allah protège la foi, il quitte ton corps. Il y a un péché grave. Donc c'est quelqu'un qui était à deux doigts de faire le haram, un péché grave, et qui a juste dit que non, j'ai la crainte d'Allah, je ne le fais pas. Il n'a pas fait une bonne action, hein. Il s'est éloigné d'un haram et c'était ce qu'il a fait de mieux de toute sa vie. Et grâce à ça, Allah a accepté son action et les personnes, ils ont trouvé une certaine ouverture pour... le doigt a été exaucé, son doigt a été exaucé. Donc ça, ça illustre un peu ce mécanisme quand on s'éloigne de quelque chose qui est accessible, mais qui provoque la colère d'Allah uniquement pour Allah, alors que toutes les conditions sont réunies, wallahi, c'est peut-être la meilleure des actions qu'on fait de notre vie. C'est pour ça que j'ai focalisé un petit peu sur les jeunes, on dit c'est l'âge, et qu'on prenne conscience de la chance que nous avons quand nous sommes dans le dîn ou que nous avons une certaine connexion avec la religion et qu'on est encore jeune et qu'on a la possibilité, subhanallah, dans cette jeunesse d'obtenir une place sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal de deux façons. Là, je parle des jeunes. Soit de rester dans l'istiqama, shab, nasha'a fi ta'atillah, qui grandit de l'obéissance d'Allah, ou alors, quand on reçoit ce genre de proposition, on arrive à dire non par amour et par crainte d'Allah. C'est un moment magnifique qu'on arrive à se, subhanallah, à se redresser complètement pour aller vers Allah Azza wa Jalla, s'éloigner du haram. On sait qu'on a marqué énormément de points. C'est peut-être mieux que mon 27e que j'ai passé dans Haram Sharif, Makka, Deya, Sudeï, en faisant tahajjud toute la nuit, les mains levées. C'est ce que j'ai fait là, Allah seul le sait, mais ça peut être l'action. Ça peut être l'action qui va me mener, Inch'Allah, vers le Jannah et qui va me protéger contre toutes les difficultés du Akhirah. Donc, cette citation magnifique de Malik ibn Dinar, Hafizahullah, Rahimahullah. Également, Yahya ibn Mu'adh, il dit « Man arfdal jawarih ». Maintenant, il parle de l'autre réaction. Là, tout à l'heure, on a parlé de celui qui arrive à se contrôler complètement. Shaitan fuit même de l'ombre de cette personne. Maintenant, Yahya ibn Mu'adh, il cite la personne qui sombre dans ses pulsions. Il dit « Man arfdal jawarih fil ladhat ». Celui qui va contenter chaque membre de son corps dans les passions, dans les pulsions, dans ce que de ce qu'il veut faire. « Faqad gharasa li nafsihi shajarat al-nadamat ». Cette personne est en train de faire, c'est une métaphore, en train de planter dans son cœur un arbre qui va donner que des regrets comme fruit. C'est-à-dire que quand une personne suit son nafs, ce qu'il a envie de regarder, il regarde. Ce qu'il a envie d'écouter, il écoute. Je suis dans ma voiture, j'entends un morceau, enfin une musique que j'aime bien ou que j'avais l'habitude d'écouter, me dit ben, j'écoute. J'ai envie de manger quelque chose, je ne me pose pas de questions, c'est bon, c'est pas bon, je mange. Et ainsi de suite. L'arrêt des alik, quand on commence à habituer notre corps au haram et qu'on suit les demandes de notre corps, ben, on est inconscient, on a l'impression qu'on a fait bon, un petit écart, on va demander pardon, Allah va accepter. Mais on est en train de faire grandir quelque chose dans le cœur qui va nous mener vers énormément de nadamat, énormément de remords. Ça, les savants disent, expliquent, ça c'est le cercle vicieux qu'on a expliqué tout à l'heure. Le cercle vicieux, c'est nous penchons vers les péchés. Première étape. Deuxième étape, nous les accomplissons. Troisième étape, à partir du moment où on l'a fait une fois, il y a une dépendance. Celui qui a fait l'adultère une fois, c'est très difficile de refuser une deuxième fois. C'est-à-dire celui qui a goûté à ce plaisir, je parle avant le mariage, celui qui a commencé, il a 18 ans, il est parti en boîte de nuit, et c'est la première fois qu'il peut avoir une relation sexuelle. Et s'il a accepté, je crains qu'à chaque fois il le fera. Parce que si son cœur s'est attaché avec cette jeune fille, ben assurément, cet acte va se répéter. Pareil, si quelqu'un a bu une fois, il y a des risques que la personne qui a goûté le plaisir, parce qu'à travers chaque péché, il y a un plaisir. Mais c'est un plaisir que Shaitan nous fait percevoir comme un plaisir. Parce que Shaitan a la capacité d'embellir les péchés. Donc quand quelqu'un a bu une fois, quand quelqu'un a fumé un joint, un zamal ou autre chose une première fois, ainsi de suite, quand quelqu'un commence à écouter un peu de musique, on peut craindre le pire que la personne entre dans ce cercle vicieux et qu'il lui sera très difficile de sortir de ce cercle vicieux. Il est beaucoup plus facile pour n'importe quelle personne présente qui n'a jamais bu. C'est ça, je pense que personne n'a bu. Déjà bois Zamzam non plus. Quelqu'un qui n'a jamais bu, on lui propose un verre d'alcool. Tu veux n'importe quoi. Il ne veut même pas voir. Il ne veut même pas voir. S'il sent un peu le dieu à la bière, ou autre, il dit, enlève ça, lave ça, il pue la bière. On ne veut même pas sentir. Donc, pour nous, s'éloigner de la boisson alcoolisée, c'est naturel, c'est instinctif. Mais, pour quelqu'un qui boit, qui a l'habitude de boire, qu'on lui propose une boisson, résister, c'est extrêmement difficile. Donc,
qu'est-ce qu'on conclut? Ne pas faire le premier pas dans le haram. Parce que quand on commence, quand on se dit que mi goûte une fois, c'est là que tu goûtes pour de vrai. C'est là que tu vas t'abonner. Ton cœur va s'attacher à ce plaisir, on va dire, éphémère, d'apparence que Shaitan nous fait percevoir. Donc, cercle vicieux, c'est le premier pas vers le péché. Il y aura une dépendance, faiblesse de la foi. Plus on fait des péchés, le iman faiblit. Quand le iman faiblit, le nafs prend de l'ampleur. Quand le nafs prend de l'ampleur, Shaitan a plus d'emprise sur nous. Et donc, nous allons pencher maintenant vers beaucoup plus de choses mauvaises. Il y a maintenant un éventail de choix pour Iblis. Si on a sombré dans un péché et qu'on devient abonné, on devient, comment s'appelle quelqu'un qui fait des péchés tout le temps sans demander pardon et sans éprouver de remords? Fasiq. Ça s'appelle le fisq. Le fisq, que ce soit en arabe ou en français, c'est dangereux. Mais en arabe, il est plus compliqué spirituellement. Le fisq, c'est quand on accomplit les péchés et qu'on n'éprouve pas de remords et qu'on le fait tout le temps et qu'on n'a même pas l'intention d'arrêter. On ne se pose même pas la question quand est-ce que je vais arrêter de pécher. Là, on devient fasiq. Donc, quand une personne rentre dans ce cercle vicieux, son iman diminue, Shaitan a de plus en plus d'emprise sur lui, le nafs le pilote, le dirige complètement, et là, il a sombré dans un haram. Il y aura bientôt un éventail de péchés. Et la personne risque de passer l'essentiel de sa vie dans le haram. Et comme il a un éventail de péchés et que jour après jour il commence à sombrer dans 1, 2, 3 ou 4, à un moment donné de son cœur, qu'est-ce qui va se passer dans son cœur? Des points noirs. Un point noir, 2, 3, 4, jusqu'à ce que le cœur devienne noir, imperméable. Et quand le cœur devient noir, il n'y a plus rien qui pèse. Il n'y a plus de Coran, il n'y a plus aucune bonne parole qui va percer ce cœur, qui va traverser. Parce que le cœur est devenu sec, devenu dur. Il n'a plus d'amour pour Allah ni de crainte dans son cœur. Et quand le cœur devient noir, on a de moins en moins d'attachement pour les bonnes actions. Et le peu de bonnes actions qu'on continue à faire, on le fait comme un fardeau. Ou alors on le fait juste pour faire voir aux gens, qui font part aux tentations. Ou le verset, « وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا » Ils viennent par paresse, ils traînent les pieds pour venir à la prière. Tout ça, c'est des signes que notre cœur est noir, qu'on fait plein de péchés et que donc on ne trouve plus de bonheur dans les bonnes œuvres. Vous voyez le résultat, comment il est dramatique? Et c'est le contraire de ce qu'on a expliqué tout à l'heure avec la citation de Malik ibn Dinar. C'est un cheminement, c'est un cercle vicieux. C'est nous qui choisissons quelle orientation je donne à ma vie. Le premier choix, mes chers frères en islam, c'est le plus important. Un effort à faire et des doigts à demander à Allah de nous garder dans le droit chemin et de nous protéger des situations de fitna. Quand on parle des situations de fitna, on avait expliqué des signes qiyama, ne jamais aller voir Dajjal quand il apparaît. Mais pareil, demander protection. Le prophète avait dit, sahaba, la tatamanna liqa al-adou. Je pense que c'est hadith prophétique. Ne souhaite jamais rencontrer l'ennemi. Pourquoi ne souhaite jamais? Il ne faut pas se dire, ouais, s'il arrive, moi, il est là et tout. Tu ne sais pas, l'ennemi arrive. Tu te rends compte que spirituellement, tu ne vaux rien. Quand il n'y a personne, on déclare, on fait le coq, on est costaud, on est mashallah, on est prêt à... Okay? Mais quand on est dans une situation de conflit, là on se rend compte qu'on est le premier à détaler rapidement. Pareil face à Dajjal, on pense qu'on est un homme pieux, mais face à ces fitnas, on perd la foi, on le suit, qu'Allah nous protège. Ben justement, on doit demander à Allah de nous protéger de ces situations où on doit affronter ce genre de fitnas, ce genre de péché, parce que Allah seul sait qui c'est qui sombre et qui c'est qui arrive à s'en sortir. Permettez-moi encore une citation. Celle de, lui aussi je ne le connais pas, As-Surri, As-Surti, il dit Aqwa, on pourrait dire Aqwa al-Jihad, Ghalabatuka, Ghalabatuka nafsika, c'est une annexion, Ghalabatuka nafsika, wa man ajiza an adabi nafsihi kana an adabi ghayrihi ajaz. Allah, franchement, c'est un sacré tacle par derrière de As-Surri et qui touche les ligaments, ça fait très mal. Il explique que le gros mot, il ne faut pas dire djihad, hein. La plus grande bataille, c'est la bataille que tu vas mener contre tes pulsions. Ça, c'est une bataille essentielle. Et là, il dit que celui qui n'arrive pas, et là, on revient vers l'éducation, celui qui n'arrive pas à se contrôler, celui qui n'arrive pas à se contrôler intérieurement, à s'éloigner des péchés, à contrôler son regard, ses yeux, ce qu'il mange, ce qu'il dit, ainsi de suite, qui n'arrive pas à contrôler son cœur, ben la conséquence c'est quoi? Man ajiza an adabi nafsi, celui qui n'arrive pas à se contrôler, à se réformer lui-même, kana an adabi ghayrihi ajaz, il ne pourra pas non plus diriger, guider, éduquer les autres. Ça, c'est les parents qui sont dans le péché, ben ils ne pourront jamais amener leurs enfants dans le droit chemin. Si un papa, une maman n'arrive pas lui-même à prier, à respecter les ordres d'Allah, à s'éloigner des interdits, même s'ils vont dire à l'enfant, lève, allez namaz, écoute pas la musique, fume pas cigarette, bois pas, il n'y aura pas d'effet. Vous voyez, la relation entre le murabbi, entre l'éducateur et l'enfant, ce n'est pas qu'une relation de parole ou de gestuelle ou de menace ou de récompense, il y a de la spiritualité. L'enfant va puiser de ta spiritualité, il voit qu'est-ce qu'il y a en toi. Quand ce sont des parents pieux qui ont la crainte d'Allah, assurément le message passe plus facilement. Mais la personne qui n'arrive pas à se contrôler lui-même, il ne pourra pas éduquer quelqu'un. Il ne pourra pas guider quelqu'un vers le droit chemin. Et dernière citation, et avec ça, mashallah, complète la première partie pour ce soir. Abu Muhammad al-Jurayri ou al-Jariri, rahimahullah. Et là, il cite quelles sont les conséquences de la personne qui a été dominée par son nafs. La personne qui est dominée, c'est-à-dire, khalas, lui, il suit ses passions, il n'arrive pas à se relever. Manistaulat alayhi nafs, celui dont le nafs a eu le dessus complètement, sara asiran fi hukmi shahwat, il devient l'esclave de ses pulsions. Ça, c'est clair. Il va faire tout ce que son corps lui demande de faire, sans regarder les limites, ce qui est halal haram, bien sûr, comprenez. Mahsouran fi sijnil hawa, il va être emprisonné dans cette prison. Qu'est-ce qui est les plaisirs? Parce qu'on pense que les plaisirs, c'est la liberté. À notre époque, on veut faire croire que quand on peut aller en boîte, on peut boire, on peut rencontrer une fille, faire l'adultère avec cette fille, et puis trouver quelqu'un d'autre demain, faire avec deux, et puis trouver un mec qui dit, ah aussi, viens, nous fais ensemble, et puis on s'amuse, et qu'on mange, on boit, on se saoule, on se pique, on fait tout ça, on a l'impression que c'est là qu'on est content, c'est là qu'on est épanoui. Ça, c'est la société qui nous fait intégrer que c'est à travers les plaisirs qu'on trouve l'émancipation. L'homme libre, c'est celui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, tant que la loi le permet, bien sûr. Donc la loi, tant que tu ne vas pas à l'encontre de la loi de ton pays. Mais épanouis-toi complètement. Tu veux être homosexuel, fais-le. Tu veux être bi, fais-le. Tu veux être tricadri, multi, fais-le. La société nous fait comprendre que ça, c'est un homme libre. Dans notre dîn, on dit que ça s'appelle Sejnul Hawa. Ça, c'est la prison des plaisirs. Tu es emprisonné par tes pulsions. Tu n'es pas un homme libre. C'est tes pulsions qui te font avancer à la baguette. C'est tes yeux qui te commandent, qui commandent ton cœur. Ce sont tes oreilles qui commandent ton cœur. C'est ta langue qui commande ton cœur. C'est tes parties intimes qui commandent ton cœur. Tu n'es plus maître de toi. Et donc, tu ne pourras pas faire soumettre ce corps en entier pour Allah, comme on le fait dans la salah. Au contraire, c'est chaque partie de ton corps qui te réduit à l'esclavage et tu suis tes pulsions et tu t'éloignes. Cette personne pense qu'il est libre, mais bien au contraire, cette personne est devenue l'esclave de ses passions. Vraiment, c'est une citation extrêmement profonde qui nous interpelle. Et ensuite, wa'ala, là c'est grave. Là, c'est vraiment grave. Et là, ça rejoint l'histoire du point noir et tout qu'on a dit tout à l'heure. Là, on a vu que la personne est emprisonnée. Il est confiné par ses pulsions. Il n'arrive pas à s'échapper. Il n'arrive pas. Quand il en manque, mais il en manque réellement. Il doit faire le péché, autrement, il n'est pas bien. Et l'autre conséquence, là, on parle du conséquence sur le plan spirituel de sa relation avec Allah maintenant. Là, tout à l'heure, on a parlé de son éloignement d'Allah. Maintenant, dans sa relation, est-ce qu'il peut encore se rapprocher d'Allah ? وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ الْفَوَائِدِ. Allah rend haram. Ce n'est pas un hadith, hein, c'est la citation d'un pieux prédécesseur. On ne le prend pas comme un hadith, mais c'est des paroles remplies de sagesse. Allah rend haram sur son cœur tout ce qui est profitable spirituellement. Il écoute un bayan, il écoute. Mais ça ne lui fera rien. Il va écouter Soudaï, Shuraïm, il va partir, peut-être même à Mecca, il va lui faire Taravi, des imams, Haramain et tout. Il écoute, il trouve bien, c'est beau et tout. Mais il y a comme quelque chose qui fait que ça ne transpire pas, ça ne rentre pas dedans. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre côté, mais ça ne change pas. Je reviens, je recommence mes mêmes bêtises. « وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِ الْفَوَائِدِ فَلَا يَسْتَ » Qu'est-ce qu'il dit ? On l'a retrouvé. Il dit que quelles que soient les paroles qu'il va écouter, quelles que soient les circonstances, la personne aura du mal à retrouver le droit chemin. C'est ce qu'on avait, c'est ce que les savants, hein, ils expliquent à travers le hadith, le point noir qui cumule, à un moment donné, le cœur devient noir et le cœur devient insensible. Et ça, c'est extrêmement grave. La personne qui s'est enfoncée dans ses plaisirs, il est emprisonné et du coup, il ne trouve rien. Il ne trouve plus de lumière, de foi, de lumière spirituelle. Il n'arrive plus à se connecter avec Allah Azza wa Jal. Ça, c'est très, très, très grave qu'Allah nous protège de ce genre de situation. Je pense qu'Inch'Allah, on va s'arrêter là pour ce soir. Et la semaine prochaine, on va vraiment, on a juste cité deux fois le nom de Yusuf alayhi salam. La prochaine fois, on va vraiment parler, Inch'Allah, de Yusuf alayhi salam et de voir quelles étaient les circonstances de cette proposition haram et comment est-ce qu'il s'en est éloigné. Et quelles étaient les qualités de Yusuf alayhi salam et qu'est-ce qui est promis à celui qui arrive à se diriger, à rester dans le droit chemin. Inch'Allah, on va compléter la semaine prochaine. Qu'Allah Rabbul Izzah. Dans deux semaines. La semaine prochaine, ben, il n'y a pas programme. Il y aura un intervenant qui vient d'ailleurs, qui va faire un programme en ville. Donc, il y a un créneau qui saute. Ce qui fait que dans deux semaines, ben, on sera en ville. On va compléter les semaines de Qiyama. Inch'Allah, on va terminer. Dernier programme. Ça nous ramène à Inch'Allah dans trois semaines. Inch'Allah. Qu'Allah ait la possibilité de compléter ce chapitre-là avant le mois de Ramadan. Et vraiment, qu'Allah donne les qualités de la foi, qu'Allah nous permet de rester éloignés du haram, et qu'Allah nous donne l'envie de faire de bonnes actions, qu'Allah mette dans nos cœurs la lumière de la foi, et qu'Allah nous permette de transmettre cette lumière de la foi à nos enfants. Allahumma amin. Subhana rabbika. Rabbil izzati amma yasifuna. Salamun ala al-mursaleen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.